voix nue. Toute cette semaine, Séverine Liata rencontre Colline Serrault. Ce soir, une femme à la caméra.
Bonsoir Colline Serrault.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste, metteur en scène, d'opéra, de théâtre. Vous avez réalisé des documentaires et beaucoup de films. Et nous avions achevé hier notre conversation sur Le Barbier de Séville, que vous montez donc à l'Opéra Bastille en 2001, où donc Rosine, l'héroïne, réussit à se libérer du joug de Bartolo, son tuteur, qui voulait la forcer donc à l'épouser. C'était une manière, on en avait parlé, pour vous de traiter de la question de l'enfermement des femmes par la religion, tout comme aussi ce thème que vous aviez traité dans Chaos, où vous dénoncez une société qui minore toujours les inégalités entre les hommes et les femmes, enfin des sociétés finalement qui respectent pas les droits de l'homme à l'égard de leurs femmes.
Les droits de l'homme tout court, les droits des humains.
Voilà.
Dans Chaos, il y avait aussi, il y a beaucoup dans les films que j'ai fait, les personnages principaux sont des hommes, dont je montre la transformation. Ça m'intéresse plus de montrer comment le mâle occidental, un peu borné, se transforme et peut se transformer. La transformation d'un être par des circonstances et par des prises de conscience, le réveil, l'éveil, ça c'est un très très beau thème. C'est surtout ça que j'ai travaillé dans mes films.
En tous les
l'éveil.
On en a parlé aussi, vous n'aimez pas tellement qu'on qualifie vos films ou vos mises en scène de féministes. Vous, c'est politique et poétique. Hein,
poétique et politique, oui.
Voilà.
Il y a une société qui est organisée d'une certaine manière, avec des oppressions diverses et variées, hein, qui concernent des populations immigrées, des femmes qui sont en fait la moitié de la population, qui concernent aussi un racisme contre certaines professions, contre les ouvriers, il y a toutes sortes de discriminations dans une société, il n'y en a pas qu'une. Bon, je ne supporte pas ces discriminations, donc je fais, entre autres, des films qui parlent pas seulement de ces discriminations, qui parlent à travers une vision utopique ou à travers à partir d'un sens autre que je voudrais donner ou montrer de cette société. Je crée des bulles de paradis, disons, où on explique ces discriminations, on les décortique, on les montre et on montre aussi comment elles pourraient se transformer, comment ça pourrait aller vers un monde meilleur. C'est pas que des réclamations. Je suis pas le bureau des réclamations des femmes, vous comprenez?
Non, il y a un optimisme, hein, dans vos films.
Non, il y a plus que ça. Il y a une proposition d'utopie.
Voilà, des solutions. En tous les cas, pour l'instant, je voulais qu'on parle un petit peu de manière plus concrète, Colline Serrault, sur votre travail de réalisatrice. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou de deux tournages de films? Alors, dans tout ce que ça comprend, c'est-à-dire de l'écriture du scénario, à la mise en place, évidemment, de l'équipe de tournage, le choix des acteurs, la direction d'acteurs, le tournage lui-même, et puis le montage aussi, bien sûr, qui est extrêmement important.
Alors, d'écrire le processus de fabriquer un film, c'est un très long processus. Ça peut prendre 1, 2, 3 ans, 4 quelquefois, et c'est presque aussi long qu'autrefois quand par exemple au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, quand les peintres faisaient des tableaux. Un tableau, ça mettait 2, 3 ans à faire un tableau, parce qu'il y avait le séchage, parce qu'il y avait l'huile, parce qu'il y avait... c'était très long, c'est des processus de création longs, et le cinéma, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'écriture, où on est seul, et où on est vraiment face à face avec à la fois son inspiration intérieure, c'est-à-dire les choses jaillies de l'inconscient, comment utiliser ce matériel brut sans faire un film narcissique, ça c'est ce que je me suis toujours efforcé de ne pas faire, et utiliser le matériau extérieur mélangé à ce matériau intérieur, qui est la société, les gens que vous rencontrez, la richesse humaine autour de vous et l'analyse aussi d'une société. Donc tout ça, pour moi, c'est ça le travail d'écriture. C'est un travail ardu parce qu'il faut aussi construire une histoire avec... C'est un peu comme écrire une fugue, c'est-à-dire que vous avez plusieurs thèmes qui doivent se répéter, se mélanger harmonieusement. Et c'est presque, je dirais, de l'horlogerie, quelquefois mathématique même. Il y a plein d'impératifs. On est obligé de rentrer dans plein d'impératifs. Il faut que ça soit d'une certaine durée. Il faut qu'il y ait une envie permanente de continuer à savoir la suite. Voilà. Il y a plein d'impératifs dans la fabrication d'un scénario. Il faut que ça soit juste, que ça soit vrai. Les dialogues doivent être extrêmement retravaillés, passés au gueuloir, comme disait Flaubert. C'est-à-dire à la fois ils soient concis et qu'ils expriment rapidement dans une scène des masses de contradictions qu'il y a entre les humains, mais qu'ils n'aient pas l'air du tout autre chose qu'improvisé. Il faut qu'ils aient l'air toujours extrêmement improvisé, même si c'est à la virgule près, parce que c'est un rythme aussi, c'est une musique, un dialogue.
Et concrètement, Colline Serrault, justement, quand vous vous mettez à travailler, alors, vous observez la société, mais l'écriture elle-même, vous enfermez chez vous pendant une semaine, deux semaines, des mois.
Oui, c'est une contrainte, parce que c'est toujours la parabole du pêcheur, c'est-à-dire que quand vous êtes pêcheur, par exemple, vous allez au bord de la rivière avec votre canne à pêche, vous ne savez pas du tout si vous allez pêcher un poisson. Vous ne savez pas si vous allez en pêcher 50, 100, 10, 0, ou pendant 8 jours, vous pouvez ne rien pêcher. C'est pareil quand on écrit, on ne sait pas ce qui va sortir ou pas. Enfin, on peut être des journées entières bloquées. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, dans la pêche comme dans l'écriture, c'est que si on ne va pas au bord de la rivière, là, on est sûr qu'on n'aura pas de poisson. Voilà. Donc ça veut dire que si on n'est pas assis à sa table avec la page et qu'on ne s'astreint pas à un travail quotidien, il n'y a aucune chance qu'on écrive. Donc voilà, c'est la seule chose il y a une discipline, forcément, qui est très difficile, qui est dure, qui est dure parce que pendant ce temps-là, les autres papillonnent, font des trucs.
Non. Parce qu'en plus, Colline Serrault, vous n'avez pas tellement, il me semble, pas adapté d'œuvre.
J'ai jamais adapté.
Voilà, vous écrivez toujours, intégralement.
Toujours toute seule, en plus, oui. Ouais.
Et vous faites lire,
non,
comment ça?
Non,
non, c'est quelque chose, ça, d'individuel.
Non, mais je fais un travail énorme, moi-même, sur moi-même, et sur le texte. Donc c'est un travail d'écrivain, en fait. C'est pareil. Pareil pour les pièces de théâtre que j'ai écrites. Pareil, j'ai écrit un roman aussi sur Saint-Jacques-le-Mec. C'est l'écriture, c'est solitaire, quoi. Et c'est vrai aussi que le cinéma, c'est aussi pour ça que j'ai choisi quand même de faire du cinéma, parce que l'écriture, ça reste toujours, on est toujours solitaire. On ne sait jamais vraiment quand et comment les gens vont réagir à ce qu'on fait, alors que le cinéma, après ce moment très solitaire, on est là confronté à une énorme équipe. Déjà, l'équipe de préparation, ça c'est plusieurs mois, déjà il faut se constituer son équipe de techniciens, c'est-à-dire des gens qui à la fois sont très compétents et qui en même temps ont le même rêve que vous, enfin ont le même... la même esthétique, le même genre de... Moi, je vais beaucoup au musée, par exemple, avec les chefs-op, on en parle, on parle peinture, on parle lumière. Il faut qu'on ait un peu la même sensation et la même sensibilité.
Et justement, Colline Serrault, vous
travaillez
toujours...
Mais tous les techniciens, il y a pas... Non, je travaille jamais avec les mêmes.
Non, voilà, est-ce que vous y avez une fidélité?
Il y a une fidélité parfois. Il y a pas mal de films avec Jean-François Robin, il y a eu... Mais avec Al-Azraki aussi, mais c'est pas... Comment dire? Je pense que c'est important aussi pour les techniciens qu'on se quitte à un moment ou à un autre, et pour moi aussi, parce que ça, sinon, on finit par s'empâter, quoi, s'empâter dans des formules de travail, quoi.
Oui, la confrontation avec du nouveau, finalement, avec du nouveau, c'est enrichissant, quoi.
Il y a aussi une chose, c'est que nous, on tourne un film tous les 2-3 ans. Ou quelquefois plus, enfin là, ces derniers temps, j'en ai tourné plus que... Mais enfin, eux, ils en tournent beaucoup plus que nous. Donc eux, ils sont confrontés à plein d'autres manières de faire, d'autres metteurs en scène. Ça les enrichit. Alors après, nous, notre force, c'est que nous, on a notre manière. Et c'est une manière, et puis c'est celle-là qu'on connaît, puisque c'est la seule qu'on... Mais d'avoir des techniciens qui, eux, ont bourlingué dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits, c'est très enrichissant, aussi pour nous, parce qu'on s'apporte des choses, quoi. Donc ça, c'est tout. Mais ça, c'est la partie préparation. Ça, c'est long aussi. C'est le casting.
Alors, le casting,
mais c'est pas que le casting. C'est les costumes. C'est les décors. Les décors, c'est extrêmement important dans un film. C'est tout ce qui est. Moi, j'ai autant d'intérêt pour ce qui se passe au costume que pour ce qui se passe au casting. Tout le monde ne parle que de casting. Comprenez.
Choix, par exemple, vous tournez Colline Serrault. Parce qu'il y a des lieux, souvent, hein, quand même. Trois hommes, un couffin, ça se passe dans un appartement. Pourquoi pas, ça se passe aussi dans une maison. Il y a une sorte d'unité de lieu.
Oui, oui.
La crise aussi, Saint-Jacques-la-Mecque. Bon, c'est un cheminement, une marche.
Le carreau, c'est plein de lieux. Non, je dirais pas que ce soit... Non, c'est pas une marque de fabrique. De toute façon, vous savez, quand vous prenez n'importe quel film, vous avez des décors, ce qu'on appelle des décors principaux. Hein, les décors où... L'ensemble des choses, enfin, le principal se passe, mais par exemple, pour la crise, on avait. C'était Guy-Claude François, qui était un type, enfin, vraiment un décorateur génial, qui a été le décorateur de Mnouchkine aussi. Et on avait décidé, enfin, moi j'avais décidé, je voulais plus d'accessoires. J'en avais marre de ces camions d'accessoires qui arrivaient dans les décors, qui servaient à rien. On bourrait les tables, les étagères de trucs, tout ça, qui servaient à rien. Donc j'avais dit, on n'aura rien comme accessoire. Ça va être très stylisé. Et effectivement, si vous regardez la crise, il n'y a pas d'accessoires dans les appartements. On ne le remarque pas. On ne le remarque pas, mais moi, c'est comme il y avait très très peu de projecteurs, très peu, des directions de lumière extrêmement fortes et strictes et une seule direction. Ça aussi, c'est une chose qu'on avait vue avec Robert Alazraki. Donc, il y a des choix esthétiques comme ça qui sont en amont d'un film. On n'a pas besoin de les expliquer. Je veux dire, ils sont là, ils sont, et c'est une perception qui envahit le spectateur malgré lui. La scène, par exemple, dans la crise, la scène où les mômes vont partir au ski, où ils ont tout perdu. Si vous, c'est une feuille grise. Il y a juste des fauteuils. Il y a même pas un objet, pas un bibelot. C'est complètement vide parce que
il y a tous ces gamins qui arrivent. Il y a les gamins.
Je voulais simplement qu'on se concentre sur les gens, quoi, sur les gens avec des lumières. Ça, c'était une esthétique particulière. Dans Le Couffin, c'est tout à fait une autre esthétique. Et dans Chaos, encore autre chose. Donc, pour chaque film demande son esthétique aussi et son écriture. Parce que, par exemple, Chaos, c'était le premier film en numérique qui est sorti en France, qui n'était même pas en HD, hein, c'était de la DV à ce moment-là. Et on avait des caméras légères. La caméra 2, celle qui faisait les gros plans, était vraiment une petite caméra Sony qui coûte 3 francs 6 sous à la Fnac. Mais le film était dans cette espèce d'urgence de ce film, cette rapidité de montage, de plein de décors et de dialogues hyper rapides. Ça collait parfaitement avec cette écriture-là, la caméra stylo. Et pourtant, il y avait quand même un très gros travail sur la lumière.
Donc, c'était aussi l'idée, le chaos, justement, c'était l'idée que vous vouliez montrer, justement, ça allait très vite, oui. Ça s'entrechoque les,
oui,
sans cesse.
C'était, hein, c'était une, oui. C'était aussi un changement d'époque, le numérique. C'est qu'on sortait du 35, on sortait de ces caméras figées, de ces gros pieds, de ce matériel, des rails, des camions de lumière. On entrait dans une ère différente. J'étais sûre que c'était cette ère-là que avec laquelle je voulais continuer à tourner. Je voulais plus le 35, j'en avais juste marre, quoi. Quoique c'était beau aussi, mais les nostalgiques du 35, ils me font bien rigoler parce qu'ils en ont pas fait assez, probablement, parce que et puis alors ceux qui vous parlent de profondeur de champ, ça me fait encore plus rigoler parce qu'ils savent vraiment pas ce que c'est que la profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est une aberration des objectifs. Donc je veux dire, c'est plutôt un défaut, la profondeur de champ. Alors après, en numérique, si on veut mettre de la profondeur de champ, c'est-à-dire si on veut mettre des flous devant, derrière ou à côté, on les fait à l'étalonnage. Je veux dire, c'est.
Mais pour vous, Colin Serreau, le numérique, ça a quand même été une initiation, un changement ou c'est.
Non, mais toute la société était en train de passer au numérique.
Voilà, mais il faut les l'apprivoiser, cet outil-là. Enfin, je pense par exemple, oui, mais enfin, même en radio, il y a eu des changements. Enfin,
oui,
voilà,
mais on avait tous des petites caméras. Tous les amateurs du monde, là, ils avaient tous des caméras. Ils commençaient à filmer déjà avec leur téléphone. Donc l'écriture de ce qu'ils voyaient eux-mêmes, de ce qu'ils faisaient, puis de ce qui était sur les réseaux, c'était déjà plus du tout comme ça. Quoique Internet n'est pas encore aussi développé que maintenant. Mais on sentait bien que ces longs plans, séquences, où on fait... Et c'était fini, quoi. C'était plus l'écriture de maintenant, de notre époque, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais tellement heureuse, moi, d'arriver. En plus, sur le plan du travail avec les acteurs, ça a été un énorme changement. C'est-à-dire que, on pouvait plus. Avant, quand vous disiez moteur, vous sentiez, c'était pas la pellicule qui tournait, c'était le compte en banque qui tournait, hein, de la production. Et c'était tout, on était tous comme ça, tremblants, parce qu'on dépensait de la pellicule et que c'était cher, quoi. Avec le numérique, on s'en fichait complètement. On gaspillait à fond, on gaspillait pas, mais on disait moteur quand un acteur était prêt, parce qu'on pouvait aussi enregistrer, on peut aussi enregistrer des moments où ça semble pas être complètement prêt, mais on prend des prises au fur et à mesure jusqu'à ce que la prise soit complètement, jusqu'à ce qu'elle redescende en qualité. Mais donc on a un matériel beaucoup plus riche parce qu'il y a des acteurs qui sont très bons dans les premières prises, d'autres qui sont très bons dans les septièmes. Donc on a tout, quoi. Et on peut tourner à deux caméras, ça c'est pas des budgets énormes. Tout a changé dans l'écriture à partir du numérique, aussi dans la direction d'acteur. On peut se permettre d'improviser, on peut se permettre de voir ce qui se passe sans angoisse, quoi.
Alors justement, Colin Serreau, vos acteurs, parce que ça c'est tout un travail aussi, voilà, de diriger des acteurs. Vous-même, vous êtes actrice d'ailleurs aussi,
oui,
et parfois
oui.
Jouez dans vos propres films. Je pense à peut-être bon Vincent Lindon qui a tourné voilà certains films, au moins deux en tous les cas, sous votre
Chaos
direction.
Et La Belle Verte, ouais.
Voilà, La Crise, La Belle Verte et Chaos. Rachida Brakni, Catherine Fraud.
Oui, ils sont tous différents, les acteurs. Ils ont tous une histoire différente. Ils ont tous une histoire artistique différente. Et toute la question de la direction d'acteur, c'est pas tellement de les diriger, mais c'est de trouver les clés qui ouvrent Leur intellect, leur sensibilité, leur cœur et leurs moyens, surtout leurs moyens. Parce que un acteur, il faut qu'il ait des moyens, il faut qu'il ait des moyens de s'exprimer, il faut qu'il ait un métier pour que ce qu'il sent et ce qu'il veut exprimer sorte. Donc nous, on est là pour accoucher de ça. Et chaque acteur, déjà quand ils jouent ensemble, ils n'ont pas la même histoire. Et ils ont des antagonismes qui sont ceux, des fois, des personnages dans le film qui déteignent beaucoup sur leur rapport. Il faut qu'on fasse bien le ménage entre le privé et le boulot. Il y a toutes sortes de... Il y a plein de... On est dans un espèce de marécage magnifique en même temps de ce qu'est la vie entre humains, quoi. Donc c'est... Alors c'est à la fois passionnant, difficile, parce que moi, je dirige souvent à l'oreille. Je pense que l'intonation est une source de sens énorme, extraordinaire, parce que je suis musicienne de formation. Donc le son, pour moi, le son d'une réplique, c'est et la manière dont on peut la dire ou la dire autrement, les finales, les accents dans une réplique, ça a un sens énorme, tout le temps, un sens même social, bien sûr. Et il y a des gens qui sont totalement rétifs à ça, allergiques, qui comprennent pas. Il y a des gens qui sont des Stradivarius, vous leur dites ça. Moi, je vois par exemple Muriel Robin, qui est une virtuose, vraiment.
Alors, Muriel Robin qui a tourné Saint-Jacques-Lamec.
Hein. Elle, sur une réplique où elle a 3-4 mots, elle vous donne 10 manières, au quart de ton. Et à chaque fois, elle peut les reproduire, parce qu'elle a une oreille incroyable, et que moi aussi, j'entends parfaitement ces différences, et j'entends le sens différent qu'il y a dans cette manière de dire ça, c'est vraiment la virtuosité pure. En France, on n'est pas tellement formé à la virtuosité, on est formé plutôt, c'est les humoristes qu'ils sont, parce que eux, ils ont, si vous voulez, ils ont tellement un impératif de rythme et de justesse que s'ils ratent, ben, il n'y a pas de rire, c'est tout. Donc ils sont tout le temps confrontés à cet aiguisoir d'oreille qu'est le public. Quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous disiez, je crois, c'est la précision aussi du musicien. Enfin, vous, en tous les cas, c'est quelque chose qui reste...
C'est au quart de ton, hein, sinon
pour vous et pour vos acteurs.
Pour les acteurs aussi. Puis il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a qui n'ont pas forcément une formation musicale ou qui n'ont pas forcément la même oreille ou qui fonctionnent plutôt par image, par mots. Des fois, c'est des mots. Des fois, c'est le corps. Des fois, je leur imite un comportement qu'ils vont pas du tout imiter comme moi, ou ça les énerve que je le fasse, des fois, au contraire.
Colin Serrault, il y a des acteurs qui fonctionnent à l'oreille, qui sont musiciens ou pas, mais en tous les cas, voilà, qui ont l'oreille. Et ça, c'est très important, parce que pour vous aussi, vous écoutez les répliques. C'est comme ça que vous arrivez à déterminer ce que vous voulez. Et puis d'autres fonctionnent plus avec le corps. Donc parfois, vous leur montrez comment ça se passe. Justement.
Oui, il y en a qui fonctionnent à l'imitation, hein, au comportement. Ils sentent un comportement. Ça les amuse de le reproduire. Et d'autres, que ça agace, par exemple, si vous leur donnez leur réplique, si vous leur dites comment faire leur réplique. Donc à eux, il faut plutôt parler, parce qu'ils n'aiment pas reproduire quelque chose. C'est comme une espèce d'objet comme ça qu'il faut apprivoiser, et surtout rendre productif. La question n'est pas d'aide, qu'on vous aime ou pas, sinon on s'en fout de ça. Mais bah, dans tout, partout, c'est surtout qu'on rende les gens productifs, donc heureux, quoi. Donc heureux de faire ce qu'on a envie qu'on fasse ensemble. Et c'est pas... beaucoup de gens voient le métier de metteur en scène comme un métier de quelqu'un qui est un chef. Mais non, on est chef de rien du tout. On est une énergie qui en rassemble d'autres pour faire quelque chose, pas pour nous, mais pour un public. Voilà. C'est plutôt un rassembleur d'énergie, et c'est ça un créateur. Et c'est toute la difficulté d'arriver à rendre les gens heureux et productifs, quoi.
Et Colin Serrault, vous avez aussi sollicité, enfin je pense à un film en particulier, c'est Roméo et Juliette, dont on n'a pas beaucoup parlé, donc en 89, une comédienne pas du tout professionnelle, Firmin Richard, que votre chef de casting trouve, je crois, dans un restaurant. Oui. Et donc alors voilà, diriger, apprendre le métier, je sais pas, à une actrice qui n'est pas actrice, enfin voilà, qui devient actrice.
C'était pas forcément facile, hein. Firmin avait beaucoup de dons, je lui dis toujours, elle avait ce qui ne s'apprend pas. C'est-à-dire une présence, une qualité d'être, une vérité, et puis aussi son histoire, parce que c'est une femme noire, avec aussi les souffrances qu'il y a derrière chaque femme noire. Bon. Mais par contre, ce qui s'apprend, elle ne l'avait pas, et ça, c'est embêtant. Bon, je veux dire que c'est toujours parce qu'on passe souvent dans la légende dorée, ah, elle n'avait rien fait, mais elle était... Non, non. Il a fallu bosser, quoi, quand même. Et puis, c'était pas facile. Et puis, après, elle a pris des cours. Elle s'est quand même rendue compte que c'était un métier. Sur le moment, elle s'en rendait pas trop compte, quoi. Hein. Et je dois dire que moi, je tresse des couronnes à son partenaire.
Daniel Auteuil.
Daniel Auteuil, parce que franchement, il a été exemplaire de patience et de gentillesse, quoi.
Mais du coup, voilà, après, d'ailleurs, elle en a fait sa profession. Hein. Vous l'avez révélé quelque part aussi.
Oui, enfin, c'est enfin, avec elle,
ce hein. film, ce projet.
Non, non, je veux dire, le premier film de Tim Seed, premier film de Marion Cotillard, premier film de Isabelle. Comment elle s'appelle Carré, premier film de.
Oui, c'est vrai, Isabelle Carré, toute jeune.
Oui, révélé, c'est pas révélé, c'est que je prends des acteurs. Moi, ça m'est égal complètement qu'ils soient des stars ou pas. Je prends des acteurs quand je sens qu'il y a un potentiel et qu'ils sont bons pour le film. Donc, oui, forcément.
Et il y avait des hésitations, par exemple, Colin Serrault, sur des personnages. Vous disiez
des
acteurs de choix, par exemple, d'acteurs.
Beaucoup, il y a
oui.
que ça. Oui, on n'est jamais sûr de rien. On sent quand même quand il y a un bon acteur, mais on peut se tromper.
Mais pour le personnage aussi, parce que voilà, il y a le fait d'être un bon acteur et le fait d'être un bon acteur dans ce rôle-là aussi. Enfin, ça,
Oui, c'est complexe. Hein. C'est très complexe. Et puis, on peut se tromper. On peut se tromper. Moi, j'ai pas voulu de Tim Seed pendant longtemps. J'ai pas voulu de Vincent non plus pendant longtemps. Et je m'étais trompée. Voilà. Ils l'ont tellement voulu. C'est pour ça que depuis, je dis, en fait, un acteur, il vous choisit autant qu'on le choisit. C'est la rencontre entre deux envies, en fait, un casting. C'est une vraie, vraie envie de faire le film qui rencontre quelqu'un qui est d'accord aussi pour le faire avec lui.
Et vous leur envoyez un scénario?
Ouais. Non, en général, on envoie une scène. Et puis ils font une scène, ça dépend, les rôles principaux, oui. Mais sinon, le casting, il n'y a pas que des rôles principaux. Hein. Dans un film de casting, ça consiste à avoir des masses et des masses d'acteurs pour tous les rôles. Donc eux, on leur donne la scène, ou les scènes, parce qu'ils peuvent faire plusieurs scènes. En général, moi, je demande à ce qu'ils les sachent par cœur. On a un gros problème ça paraît démentiel pour par exemple, dans le monde anglo-saxon, ça paraît. Les acteurs français ont beaucoup de mal à apprendre leur texte. C'est grave. Je veux dire, quand vous dites ça à un musicien, il tombe des nues, quoi. Parce que lui, depuis l'âge de 5 ans, il travaille ses gammes 8 heures par jour. Ça lui paraît quand même un peu curieux.
Un acteur de théâtre, en plus. Par exemple, Colin Serrault, ils sont bien obligés d'apprendre leur texte.
Oui. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs de théâtre
aussi. Il
n'y en a pas énormément. Ouais. Donc on a beaucoup ce problème au cinéma. Des mecs qui ne savent pas leur texte. C'est pathétique.
Alors le tournage, Colin Serrault. Casting, l'équipe est composée.
Oui, le tournage. Mais d'abord, avant le tournage, il faut faire le découpage, il faut faire tous les repérages des décors, il faut faire un découpage avec des dessins. Hein. Moi, je fais des dessins sur tous les axes et il y a déjà pratiquement le montage est fait, quoi. Et les focales, et où on met la caméra, où on met la lumière. Tout ça, c'est déjà préparé. Et puis après, il y a encore la possibilité de changer. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour les gens, un film, c'est des acteurs. Mais non. C'est un accessoiriste qui arrive avec son camion, qui a un savoir-faire incroyable. C'est toute une équipe de costumiers qui ont classé en fonction des continuités les décors, les costumes par personnage et par décor pour que si vous tournez un truc qui va raccorder directement dans la seconde d'après dans le film que vous tournez 3 semaines plus tard dans un autre décor que ça puisse marcher. Enfin, c'est beaucoup beaucoup de savoir-faire, beaucoup de métiers. C'est le son, c'est les perchemans, ça se focalise pas seulement sur les acteurs, c'est beaucoup aussi la lumière, c'est le découpage, c'est quels axes on prend, quelle hauteur de caméra, quelle grosseur, enfin, tout ça, c'est beaucoup beaucoup plus que simplement la direction d'acteur, hein, un tournage. Il y a tellement une infinité de choix, puis il y a des techniciens, il y a les coiffeurs, il y a la lumière, il y a les machinaux, comment est-ce qu'ils bougent la caméra, avec quelle finesse. C'est pas seulement les acteurs.
Non, mais...
Normalement, moi, je répète le film un mois avant ou un mois pendant 3-4 heures par jour, on répète. Donc, en fait, on arrive au tournage, les acteurs sont pratiquement prêts, quoi. Et on retravaille encore, mais c'est plus ça l'important. L'important, c'est l'ensemble, c'est la prise de vue, quoi.
Ça veut dire quoi, vous répétez, c'est-à-dire vous...
On répète comme au théâtre, on répète pendant 3-4 semaines. Tous mes films ont été répétés comme ça.
Pour finir, peut-être, Colin Serrault,
cette discussion,
le montage,
Le montage, là, tout d'un coup, après, c'est Polanski qui dit, le tournage, c'est écrire Guérépel et trois volumes en un tour d'auto-tamponneuse. C'est à peu près ça, hein, le tournage comme manière de travailler. Puis tout d'un coup, vous vous retrouvez, paf, seul, avec une immensité de temps devant vous, quand ça va bien, et une monteuse. On est, et puis une assistante, enfin, on est deux ou trois maintenant, parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'assistants à cause du numérique, on n'a plus de bobines à rembobiner et tout ça. Donc tout d'un coup, tout ça se referme, cette vie sociale qu'on avait tous ensemble sur le tournage, voilà, on est stop, c'est fini. Alors il y a un deuil à faire aussi de ça, de cette...
Ouais, parce que c'est intense.
Hein, c'est très très intense pendant tournage. 2-3 mois, et le stress du temps et de la création nous soude énormément. On est des équipes qui on a l'impression de beaucoup s'aimer. Et puis tout d'un coup, bah, tout s'arrête, et il ne faut pas rester sur ce deuil, il faut se dire... Ni se dire on va rester amis pour la vie. Non, on n'est pas amis pour la vie, on est amis quand on travaille ensemble et quand on fait une création ensemble pour d'autres gens. Et ça c'est beau, c'est ça qui nous rassemble. Après, bon, bah, ça se barre jusqu'au prochain film. Et ensuite, il y a le montage. Alors là, le montage, bon, quand, sur une fiction, c'est moins dur. Bon, on travaille les coupes parce que c'est beau une belle coupe quand elle est fluide, quand elle... Autrefois, c'était image par image avec les colleuses, tout ça, c'était compliqué. Maintenant, au numérique, on travaille peut-être plus assez les coupes, parce que justement, c'est trop facile. Mais une coupe fluide, c'est quelque chose de miraculeux, hein. Au cinéma, c'est un métier que les gens ne connaissent pas forcément. Mais en tout cas, le puzzle est déjà là. Le puzzle est là. Il faut choisir les prises. Il y en a beaucoup maintenant, beaucoup plus en numérique des prises. Mais on n'a pas de création directement du matériel. En fiction, tandis qu'en reportage, là, c'est là que ça commence, les embêtements, là, le montage. Mais là c'est toute la phase d'écriture, elle se passe là, quoi, au moment du montage. Ça peut durer 3 ans. Enfin, les films que j'ai faits de reportage, j'ai mis 3 ans pour les monter, parce que j'avais un énorme matériel.
On en reparlera peut-être demain. Merci, Colline Serrault.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Liattard avec Colline Serrault. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Arthur Gerbeau, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.